Alors nous continuons sur dans le vocabulaire chrétien. On s'était arrêté à la lettre P avec le mot parabole. Et pour clôturer ce qu'on avait dit sur les paraboles, que c'était des images utilisant les éléments de la vie concrète pour expliquer les réalités spirituelles, afin de simplifier les choses, mais ce n'est pas cette simplification. Au fait, cette simplification n'est accessible qu'aux gens à qui Dieu veut rendre cela accessible. Et on avait clôturé en disant que notre propre vie devait être l'expression de la parole de Dieu, puisque la parole peut comprendre certains termes qui ne sont pas toujours compréhensibles de prime abord, mais notre vie peut rendre ces termes réels, clairs. Et quand on parle de résurrection, par exemple, lorsque quelqu'un nous voit transformer, changer, alors qu'on était voleur, bandit, on était méchant et qu'on devient différent, ça ressemble à la résurrection et ça rend la résurrection compréhensible. Et pour clôturer ce dossier-là, je veux dire que même le Seigneur lui-même est venu en chair. Donc, il est écrit dans Jean chapitre 1er, la parole s'est faite chair. Donc, cette parole est venue sous la forme d'un homme. Donc, afin que ce qui est écrit devienne vraiment beaucoup plus clair. Mais nous le savons tous que ce n'est pas tout le monde qui a vu les choses claires par la présence physique du Seigneur. Donc, il y a eu la présence physique du Seigneur. C'est devenu clair pour certains, mais pas pour d'autres. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Mais je me souviens de l'image qu'avait prise un serviteur de Dieu qui était malade en convalescence dans les montagnes. Et de sa fenêtre, il voyait les oiseaux. Et quand il voulait s'approcher d'eux, parce qu'il trouvait que c'était beau de voir les oiseaux, quand il voulait s'approcher d'eux, les oiseaux fuyaient. Mais il s'est dit, mais tiens, si je pouvais me transformer en oiseau, ils ne me fuiront pas. Je pourrais les contempler de très près. On pourrait vraiment échanger. Et c'est là qu'il s'est dit, mais c'est ce que le Seigneur a fait. Il est venu en homme afin que la relation soit vraiment concrète, les choses passent. Et donc nous sommes appelés à faire de la parole chair. Donc ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui est prêché, c'est très bien, tout ça doit continuer, les prédications doivent continuer, la lecture de la Bible doit continuer, mais tout cela a besoin de l'expression de notre vie conforme à cette parole, afin de rendre cette parole claire et visible. C'est comme ça qu'on avait clôturé la dernière fois. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau mot, le mot paradis. Voilà, donc le mot paradis, on entend aussi souvent ça dans le milieu chrétien. Le paradis, en résumé, on peut dire que c'est le lieu où demeure Dieu, en excluant tout ce qui est péché et autre présence contraire à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur peut demeurer aussi au milieu de ses enfants. Et comme on dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il peut venir au milieu des louanges de son peuple, mais quand son peuple le loue, ce n'est pas tout le monde qui est parfait dans le peuple. Il y a des imparfaits. Mais le paradis, c'est l'endroit où Dieu seul est avec ses anges, dans la sainteté, dans la gloire, dans la vérité, dans la pureté totale. Donc c'est un endroit inaccessible, que ce soit à l'homme, que ce soit aux esprits mauvais. Donc seuls les anges, seul Dieu peuvent aller dans cet endroit-là qu'on appelle paradis. Nous avons une image de ça dans la parabole qu'on va lire dans Luc 16. Luc 16. Luc 16. Il est écrit ceci au verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Voilà. Donc, cette histoire nous montre qu'il y a un endroit où il y a la présence de Dieu, il y a Dieu lui-même, et là on l'a appelé le sein d'Abraham, et cet endroit est inaccessible aux gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du mal. Et maintenant, il y a une différence qu'on fait, donc en ce moment-là, cet endroit était quand même dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Et on suppose, là maintenant c'est une supposition, que cet endroit a été transporté, parce que maintenant quand on dit paradis, il y a aussi le fait que les gens maintenant qui meurent vont là-bas. Alors que ici, les gens qui mouraient allaient dans le séjour des morts. Mais dans Luc au chapitre 23, Jésus dit au voleur, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Et donc, à partir de là, nous comprenons que ce séjour de mort qui est décrit ici, la partie plutôt du séjour de mort qui est décrite, la partie où il y a Abraham, donc le sein d'Abraham, qui est décrit ici, n'est plus dans le séjour de mort. Il est là où Jésus s'en va, au paradis. Maintenant, ce paradis, il est où? L'apôtre Paul nous donne maintenant la confirmation de tout dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Donc, ce paradis-là n'est plus dans le séjour de mort, mais il est au ciel, 2 Corinthiens 12. Il est écrit, il faut se glorifier. Donc Paul est dans les débats avec les gens qui l'attaquent toujours. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc l'apôtre Paul dit que le paradis, c'est le troisième ciel. Donc, là où Jésus dit au brigand repentant, tu seras avec moi au paradis, ben cet endroit maintenant c'est le troisième ciel. Donc il n'est plus là où Lazare était parti, mais il est au troisième ciel. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le paradis, qui était le lieu exclusif de Dieu avec ses anges, est devenu un lieu aussi qui accueille les véritables chrétiens qui meurent. Donc, on a l'exemple du voleur à la croix. Et on se souvient aussi, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, on dit qu'il est dit dans l'épître de Pierre qu'il est parti annoncer l'évangile à ceux qui étaient enfermés dans le séjour des morts. Et il y a aussi un passage biblique dans les évangiles qui nous montre que le jour où Jésus-Christ est crucifié, il y a des gens qui ressuscitent d'entre les morts et qui sortent le jour de sa résurrection. Tous ces passages réunis nous portent à supposer que le séjour des morts s'est vidé des élus de Dieu qui sont partis avec le Seigneur au paradis dans le troisième ciel. Donc aujourd'hui, donc le paradis, c'est cela. Donc ce n'est pas, c'est à différencier, parce que le paradis étant le lieu où demeure Dieu, ce n'est pas un petit lieu. Donc il peut y avoir beaucoup de choses, on ne sait pas. Tout ce qu'il y a là-bas, toujours est-il que c'est quand même à différencier de la Nouvelle Jérusalem, qui est encore quelque chose de spécial, mais qui est construit au paradis, mais c'est spécial, c'est quelque chose en quelque sorte qui sera inauguré donc à la fin de toute chose, mais c'est pas ça le paradis, mais c'est dans le paradis, ça fait partie des œuvres grandioses du Seigneur. Donc la Nouvelle Jérusalem est spéciale encore dans le paradis, voilà, est spéciale, et c'est là que le Seigneur va tout clôturer, c'est là que nous allons habiter, donc définitivement. Voilà ce qui nous attend. Donc je ne peux pas clore tout ça sans lire la description de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : voici la maison, donc le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est comme si la Jérusalem a été préparée pour être le lieu d'habitation de Dieu et les hommes ensemble. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant : viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura plus point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Voilà, donc c'est ça la ville, la nouvelle Jérusalem, la ville qui attend tous les enfants de Dieu. Et je pense que un des piliers de la vie chrétienne, c'est méditer sur cette ville-là. C'est méditer sur le paradis. Le paradis n'est pas un mot simple qu'on emploie. Ah ben si, quand on ira au paradis un jour. Non, c'est vraiment, ça fait partie des notions que nous devons méditer régulièrement, sinon nous ne pourrons pas faire la volonté de Dieu sur terre. Sur terre, il y a beaucoup de choses qui nous amènent à devenir peut-être méchants. Mais il y a aussi des choses qui veulent nous amener à chercher l'argent. Il y a des choses qui veulent nous amener à être les premiers dans ceci, dans cela. Il y a beaucoup de choses. Et rester chrétien sans la conception, sans la notion régulière du paradis qui revient, c'est pratiquement impossible. On finira par devenir un chrétien qui est en train de chercher la puissance de Dieu pour être un homme extraordinaire sur terre, un homme riche, un homme peut-être aussi droit, mais qui n'a qu'une vision terrestre des choses. Un homme célèbre, mais on va citer le nom de Dieu, mais pour les choses de la terre, et cela finira par nous corrompre, car le Seigneur a prévu autre chose. Donc quand quelqu'un veut l'entraîner sur la terre et le laisser sur la terre, c'est quelqu'un qui sera privé du Seigneur à un moment donné. Parce que le Seigneur, lui, l'a prévu ce qu'on vient de lire. Maintenant, quand toi, tu l'entraînes sur la terre, un jour, vous allez vous séparer. C'est-à-dire, à un moment, il sera avec toi, puisqu'il veut aussi t'aider sur terre. Il veut travailler avec toi sur terre. Il aime aussi la terre, c'est lui qui a créé la terre. Mais, lui, il a déjà prévu autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ta marche avec lui, à un moment, tu vas te retrouver seul, lui n'est plus avec toi. Parce que lui, il a prévu autre chose. Nous devons prendre conscience de ça. Vouloir concentrer les choses, Seigneur, sur la terre, un jour, tu seras privé de lui. Et vous savez, bien aimé, Paul en parle. Il dit, Démas m'a abandonné. Quand Paul dit, Démas m'a abandonné, pour l'amour de quoi? Pour l'amour des choses de ce siècle. Voilà. Il n'a pas dit que Démas l'a abandonné comme ça. Non. Ce qui a fait que Démas a abandonné Paul, c'est que Démas s'est attaché à la terre. Et comme Paul restait attaché au paradis, il y a eu séparation à un moment donné. Et c'est ça qui va se passer. Deux personnes vont marcher ensemble. Vous savez, le jour de l'enlèvement, c'est ça qui va se passer. Deux personnes sur un même lit, il y a une personne qui est enlevée, l'autre est restée. Mais pourquoi l'autre reste? Est-ce que le Seigneur ne veut-il pas prendre tout le monde? Mais il ne prendra que ceux qui s'intéressent à lui. Il ne prendra que ceux qui s'intéressent au paradis. Et quand toi, tu t'accroches à la terre, tu fais tout en fonction de la terre, il ne te prendra pas. On va arriver sur le mot péché. Le péché, ce n'est pas seulement faire du mal, clairement voler, taper, mentir. Non, le péché, ce n'est pas vouloir du Seigneur aussi. Donc, tu construis tout en fonction de ce qui te plaît par rapport à la terre. Le jour de l'enlèvement, Dieu prend les gens qui ont soif du paradis. Il les amène. Donc, tous ceux qui veulent concentrer le Seigneur sur terre, un jour, il se séparera d'eux. Parce que lui, il a autre chose en vue. Le Seigneur veut marcher avec nous pour qu'on soit vainqueur sur terre, mais dans le but d'aller au ciel. Il est notre avion qui nous amène au ciel. Mais maintenant, nous aussi, on veut qu'il atterrisse sur terre. Il dira, mais non, mais moi, je vais quelque part. Donc, il sera obligé de vous parachuter. Donc, il ouvre la trappe, tu descends en parachute, lui, il continue son chemin. C'est ce qui se passe. Et beaucoup, vous savez, bien aimé, avec l'âge, nous commençons à comprendre beaucoup de choses que nous lisons et que nous voyons ailleurs. Quand tu vas compter le nombre de personnes qu'on a connues dans le Seigneur, qui ne sont plus dans le Seigneur, ça fait, vous savez, il y a même des gens qui nous ont édifiés pendant qu'on était des nouveaux chrétiens. Quand tu vois que cette personne... Je vais vous donner un petit exemple. Si vous écoutez les chants des années 80, chrétiens, les chants des années 80, les chants des années 70, vous allez entendre, on parle du fait de se repentir. Attention au corps, le corps peut nous trahir. On te dit, fais attention à l'argent. Vous savez, il y a une différence très forte. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup sont nés plus tard et ils ne voient pas ça. Pour nous qui commencions à connaître Dieu vers la fin des années 80 et puis les années 90, nous voyons la différence. Et vous savez, quand j'écoute un chant de ces années-là et que j'apprends que le monsieur qui a chanté ça, aujourd'hui il chante dans les hôtels pour gagner l'argent, il chante le gospel, mais dans les hôtels païens pour gagner l'argent, vous ne pouvez pas savoir comment ma journée est gâchée. Parce que quand tu te souviens que cet homme, pendant que toi tu étais nouveau chrétien, il te maintenait dans la foi par ses chants. Ça fait très mal. Pour certains, c'est rien de voir quelqu'un se perdre, mais pas pour d'autres. Pour quelqu'un qui sait que c'est lui qui m'a maintenu, c'est lui qui m'a aidé. Et aujourd'hui, il se retrouve à l'écart. Ça fait très mal. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'attachement aux choses de la terre. À un moment donné, Dieu continue son chemin, il te laisse sur terre. C'est la vérité, bien-aimé. Que personne ne nous fasse oublier le paradis. Et puis, bien-aimé, je reviens encore sur l'âge. L'âge aussi nous montre qu'on perd des choses. Il y a des choses qu'on avait il y a 20 ans, on les a perdues. Donc, c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre comment les gens, plus ils gagnent de l'âge, ils deviennent mauvais. Moi, je dis, mais non, mais on devrait. Parce qu'on voit, on voit ce qui s'est passé avec les gens. On voit. Ça devrait nous interpeller, bien-aimé, pour dire, ah, il y a des gens qu'on a connus, hyper riches. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Donc, tout ça doit nous servir à comprendre que la vraie destination, c'est le ciel. C'est le ciel. On a l'habitude de citer Brigitte Bardot, hein, tel acteur, telle actrice. Vous voyez la personne aujourd'hui, méconnaissable. Parce que la personne n'a plus rien. Donc nous devons comprendre, bien aimé, que la force qu'on a aujourd'hui, on va la perdre. Plus le temps passe, on perd tout ça. Et que même si tu as 10 ans, ça va passer. Ça va devenir un souvenir. C'est le paradis que nous devons viser. Chaque jour, nous devons nous rappeler cela. Maintenant, on a des choses à faire sur la terre. On ne va pas négliger ça. Mais notre objectif doit être le paradis. Et l'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, comportez-vous comme des gens qui sont en voyage. Comportez-vous comme des gens qui voyagent, des pèlerins, pas comme des gens qui sont sur place. Et je le dis, je le redis, puisque c'est ça l'objectif du Seigneur, quiconque veut fixer le Seigneur sur terre, le Seigneur le quittera à un moment donné, parce que le Seigneur a des objectifs célestes. Ce n'est pas qu'on néglige la terre, mais chaque chose a sa position. Le ciel d'abord, et Dieu s'occupe de la terre pour nous. Nous, on s'occupe du ciel. C'est important, bien-aimé. Et notre frère Paul nous rappelle aussi dans Colossiens, chapitre 3, 1 à 3. Colossiens, chapitre 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Paul va loin. Il dit que votre vie est déjà en Dieu. Il dit que vous deviez vivre la vie de Dieu puisque votre vie est déjà en Dieu. Vous devez respirer Dieu, vivre Dieu, parce que votre vie est déjà là-bas. Donc, vivez votre vie. La vraie vie que vous avez, elle est en Dieu. Mais malheureusement, les gens forcent toujours sur la terre. Ils cherchent la popularité. Ils cherchent la réussite sur terre. Ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Ils ne cherchent pas la communion avec Dieu. Ils cherchent les résultats sur terre. Même dans les choses de Dieu. Vous allez voir des gens qui s'accrochent à une église juste parce que l'église a des beaux bâtiments. Il y en a qui vont s'accrocher parce que les parents leur ont dit « mais c'est la bonne chose à faire ». Donc tu vas suivre des humains qui vont mourir un jour. Non, les gens s'accrochent à la terre d'une manière ou d'une autre au lieu de s'accrocher au paradis, au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu qui nous amène au paradis. Vous savez, si bien aimé, la terre n'est pas pour vous une difficulté, c'est que vous avez encore un problème de conversion. Pour un vrai chrétien, la terre devient un endroit de lutte. Et comme je le disais récemment à un bien-aimé, si le suicide n'était pas un péché, les vrais chrétiens, beaucoup se seraient suicidés. Parce qu'un vrai chrétien n'est pas à l'aise sur terre. Vous savez, je voyais... Il y a des gens qui viennent dans notre formation, des gens de 50 ans, 55 ans, mais qui n'ont plus d'emploi. Donc, il faut faire la remise à niveau, faire des techniques de recherche d'emploi. Et je voyais un qui marchait le dos courbé. Je sentais le découragement. Lui-même, il s'appelle professionnel, donc il a fait beaucoup de CV. Donc, je sentais le découragement. J'ai eu très mal. J'ai dit, la terre est difficile. C'est très difficile pour un vrai chrétien de voir la souffrance comme ça. Et quand on est là encore à faire vouloir briller ici sur terre, ça veut dire que on n'a pas l'Esprit de Dieu qui... Parce que l'Esprit de Dieu est embêté par tout ce qui se passe sur terre. Et donc notre... force vient maintenant quand on dit « Seigneur, aide-nous à tenir ». Vous savez, même le Seigneur lui-même a dit « Combien de temps je vais rester encore ici ? Combien de temps je vais rester ?» Lui qui est Dieu, qui a la force, mais voir le péché à gauche, à droite, voir les gens maltraités, et lui, il pouvait voir tout. Les trahisons, les gens avoir de mauvaises pensées, lui, il pouvait voir tout ça. Maintenant, vous imaginez son embêtement. Donc, un vrai chrétien, il sait qu'on a un temps à tenir, que Dieu nous aide à tenir, et on s'en va. Voilà. Mais quelqu'un qui commence à voir la terre comme quelque chose de beau, un bijou et un problème de conversion. On a un temps à tenir, tenons bon, prêchons la vérité, voilà. Avec comme le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 7, les temps sont difficiles, que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils ne l'étaient pas. C'est dans ce sens-là. Tu ne vas pas vouloir chercher le mariage parfait, non. On veut un bon mariage, on veut un mariage parfait, mais on ne va pas se battre pour ça. On va se concentrer sur Dieu. Parce que si tu commences à te battre pour tout ce qui est sur terre, même si on considère ça comme normal, mais c'est normal d'être en bonne santé, on n'en disconvient pas. On veut être en bonne santé, on veut bien manger, on veut avoir de bons vêtements. Mais ce sont des choses qu'on doit considérer comme secondaires. On doit se préoccuper de notre intimité avec Dieu. C'est ça qui doit nous intéresser, parce que cette intimité avec Dieu qui permettra que Dieu nous enlève. C'est cette intimité avec Dieu qui nous permettra de tenir par rapport aux difficultés de ce monde. Oui.
Oui, mais pasteur, je ne comprends pas moi. Quand les chrétiens grandissent dans la foi, des fois, ils tombent dans les petites choses. Moi, je connais un exemple. Il y avait un homme qui était vraiment connu le Seigneur, bien, mais après, comme il priait pour des personnes qui avaient des soucis, des maladies, tout ça, mais après, sa foi s'est tombée. Il disait, moi, je ne comprends pas, j'ai prié pour les autres, les sorciers, ça salive, et moi, au fait, la foi qu'il avait, ça commençait à tomber. Et je ne sais pas pourquoi et les chrétiens, dès qu'il est bien attaché, après quelque chose qui n'est même pas grande chose qui le fait tomber et puis il oublie quoi.
Ça le faisait tomber puisque les gens ne changent, la situation ne changeait pas.
Oui, sa situation ça change pas, mais la situation des autres personnes qui priaient et ça changeait. Il dit il en a marre et je sais pas quoi.
Donc il tenait à la terre. Donc la terre l'a fait chuter. Donc là on après paradis on parle justement le mot qui vient c'est le péché. Donc beaucoup de gens pensent que le péché, c'est seulement voler, mentir. Non, c'est tenir à la terre. Ça te fera chuter. Donc, au lieu de dire, bon, c'est pas grave. Comme Paul le dit, hein, ce que tu dis là, Paul il le dit dans 2 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 11. Là où il parle des épreuves qu'il vit. Il dit ceci. Sont-ils, on peut commencer à partir du verset 22. Toujours Paul est dans la discussion par rapport aux gens qui le critiquent. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Voilà ce que Paul donne comme souffrance. Alors, tel que nous, on se dit Paul. Ah, il faisait des miracles, c'est lui qui a prêché, Dieu lui a donné le don de la prédication. Mais il nous raconte sa vie. Mais tout ça pourquoi ? Pour nous permettre de nous concentrer sur le ciel. Parce que si on a tout bien ici, on oublie l'objectif. Donc toute cette vie-là que Paul nous décrit est permise, pour, puisque comme Dieu utilisait Paul puissamment, il fallait qu'il le maintienne dans la concentration du ciel. Parce que si Dieu t'utilise puissamment comme ça, tu finis par dire comme Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait dit ? Il a dit au Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire des tentes et rester ici ? Mais non, l'objectif, c'est le ciel. Le Seigneur dit, allez, au travail, on retourne dans la vallée. Le travail nous attend. Donc, on finit et le Seigneur va permettre cela. Beaucoup de gens prient alors qu'ils ne devaient même pas prier pour demander certaines choses. C'est juste que le Seigneur nous maintient dans l'état d'éveil par ses manques, par ça. Et juste glorifier Dieu suffit parce que quand tu es conscient que quand même c'est ton Père, tu sais qu'il va te donner tout ce dont tu as besoin. Et il y a beaucoup de choses que les vrais chrétiens ont sans avoir demandé. Ils n'ont même pas demandé ça. C'est leur Père qui donne tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend aujourd'hui ? Il faut prier pour ceci, il faut prier pour cela, il faut... Mais non ! Le Seigneur a dit chercher d'abord le royaume des cieux. Parce que le chrétien doit être concentré sur le paradis parce que la terre peut t'aspirer de plusieurs manières. De plusieurs manières. Et là, quand on lit la description de la vie de Paul, on dit « Oh, mais nous on croyait, ah ben vous croyez, mais regardez la réalité de la vie d'un vrai. » On va lire 2 Corinthiens 6, toujours le même Paul. Verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc ce bien-aimé-là était dérangé parce que lui, il priait pour les gens. Les gens étaient bénis et lui-même restait dans les difficultés. Or, c'est ce que Paul est en train de dire. Nous sommes regardés comme pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Nous, on prie pour les autres, ils deviennent riches, mais nous, on est comme pauvres. Et il a accepté tout ça parce qu'il savait que l'objectif, c'est le ciel. C'est très important. Vous savez, beaucoup louperont le ciel. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé, mais c'est parce qu'ils n'en ont pas envie. Dieu ne prendra pas quelqu'un qui n'a pas envie. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne frappes pas les gens que tu iras au ciel. Tu iras au ciel parce que tu en as envie. Et si tu en as envie, donc ton cœur va s'attacher au ciel, à Dieu, et donc Dieu se servira de toi sur terre, en sa manière à lui. Mais quand tu fais ta vie comme toi tu as décidé, c'est que tu n'as pas envie. Servir Dieu, vivre, c'est une sorte d'avant-goût du ciel. Donc quelqu'un qui a envie du ciel va se consoler par l'intimité avec Dieu. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas vraiment l'envie du ciel va faire de la religion. Il va venir pour remplir ce qu'il a à faire. Et puis il attend, voilà, que ça passe. Mais il est attaché à la terre, mais il fait ce qu'il faut pour ne pas être en problème avec Dieu. C'est tout. Mais quelqu'un qui veut du ciel, tellement le ciel est grand, beau, extraordinaire, il va chercher le ciel dans sa communion avec Dieu. Il va chercher cet équilibre-là parce qu'il ne voit pas le ciel. Et il va chercher ça dans la prière et dans la communion avec Dieu. Il va chercher ça dans l'amour. Il va chercher ça dans la nature de Dieu parce qu'il n'est pas satisfait puisqu'il n'a pas le ciel qu'il veut. Alors, il va chercher ça par la parole, par la présence de Dieu, par le service de Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on va pousser, parce que lui-même, il a envie. Et même quand il est fatigué, il a le souvenir que c'est le corps qui est fatigué, il a le souvenir que c'est lui qui a échoué, mais son Dieu a déjà tout remporté pour lui et il va s'accrocher toujours à Dieu par la foi. Même si lui n'a plus de ressources, il ne ressent rien, mais il se dit, je ne ressens rien, mais cette vie sur terre, ça me donne quoi? Donc je préfère servir Dieu tout en ressentant rien plutôt que servir la terre. Voilà, je préfère servir Dieu dans un apparent échec plutôt que servir la terre. C'est cela. Donc, il est conscient que tout ça passe. Tout ça passe. Et normalement, l'horloge devait nous aider à comprendre ça. Le temps devait nous aider à comprendre ça. Mais malgré ça, ça traîne toujours. Vraiment, que le paradis ne soit pas juste un concept comme ça. Que ça soit vécu tous les jours dans l'esprit du chrétien. Nous allons au paradis. Nous construisons notre maison au ciel. Le Seigneur a dit, amassez-vous des trésors au ciel. Nous construisons cela. C'est vrai qu'on a l'impression, mais j'ai 25 ans, j'ai tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Le temps, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas demain de quoi ça sera fait. Et même le Seigneur Jésus, qui était le Fils de Dieu, il disait, il faut travailler pendant qu'il fait jour. Ah oui, il savait qu'à un moment donné, il ne pouvait plus, parce qu'il allait être livré aux forces des ténèbres. Tu ne maîtrises pas le temps. Il faut travailler pendant que tu sens l'appel de Dieu, pendant que les choses sont faciles pour toi. Travaille en ce moment-là. Approche-toi de Dieu en ce moment-là. Fais les choses en ce moment. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Bien, c'est très important. Beaucoup de gens ont fait des exploits, et comme on nous raconte là, ben, ils ont lâché le Seigneur parce qu'après, ils se sont concentrés sur la terre. Pourquoi Dieu ne me donne pas ceci? Mais pourquoi les autres ont, moi je n'ai pas? Ah, quand tu commences à te concentrer, c'est la voie de la perdition. Et un jour, les gens s'étonnent, mais comment? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est simple, la personne a aimé la terre. C'est simple, hein? Il a aimé la terre. Maintenant, nous ne sommes pas contre le fait d'utiliser les bonnes choses qui sont sur la terre. Mais comme le Seigneur l'a dit, la priorité, c'est la vision du paradis. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste, vous aurez tout. Vous pensez bien que le Seigneur, c'est lui le créateur de tout. L'or et les diamants lui appartiennent, mais il n'avait pas d'endroit où dormir. C'est ça, bien-aimé. Il n'avait pas tout ça. Il n'avait pas de château. Il n'avait pas de Mercedes de l'époque. Mais c'était lui la source de tout, toute richesse. Il est un exemple pour nous. Il ne s'est pas marié, le Seigneur. Il est un exemple pour nous montrer réellement le paradis existe. Parce que si le paradis n'existait pas, lui, le Seigneur, avec tous les miracles qu'il pouvait faire, il allait transformer tous les oranges en gros diamants, c'est tout. Et puis, il fait des châteaux ici, ça, il reste ici. Mais non. Il est notre preuve que le paradis vraiment existe parce que lui ne s'est pas enrichi. Alors qu'il le pouvait. Quelqu'un qui multiplie les pains. Quelqu'un qui ressuscite les morts. Vous savez que dans l'île de Malte, quand Paul arrive dans l'île de Malte, il prie pour le papa du gouverneur, je crois. Le papa du gouverneur est guéri. Paul est accueilli chez le gouverneur. Donc avec de tels pouvoirs, tu pouvais habiter chez le président lui-même. Et bénéficier d'une armée pour toi, avec les pouvoirs que Paul, que Jésus avait. Et dans un autre endroit, Paul arrive dans une ville, il est reçu chez le proconsul. Le proconsul s'est converti, c'est-à-dire le gouverneur s'est converti. Mais Paul est resté là-bas combien de temps? 2 jours. Et je crois que les serviteurs de la terre aujourd'hui, tu fais un miracle comme ça, le gouverneur s'est converti. Le président se convertit, François Hollande se convertit. Mais on te fait un bureau à l'Élysée. Tu restes là. Dans 2 ans, j'irai faire la mission en Chine. Là, c'est fini, c'est la mission. Maintenant, c'est Paris. Mais Paul est resté 2 jours chez le proconsul. Il a continué son chemin. Alors que le proconsul s'était converti. C'est des gens qui continuaient leur chemin vers le ciel. Et notre frère Paul nous en parle dans Hébreux. Il dit, Abraham attendait la patrie céleste. Il ne voulait pas se contenter de la terre. C'est pourquoi il était en marche. Parce qu'il voulait la cité céleste, la cité solide, qui n'allait jamais le décevoir. Vous avez vu des images sur Yahoo, je ne sais pas, YouTube, aux États-Unis, la terre s'est ouverte et a englouti des voitures devant le parking d'un restaurant. La terre s'est ouverte toute seule et les voitures sont tombées dedans, 5 mètres d'ouverture. Donc, il n'y a pas d'assurance ici sur Terre. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas le premier accident. Il y a d'autres qui se sont produits récemment encore. La Terre s'était ouverte dans un quartier, un gros trou. Mais jusque-là, ça n'a pas encore avalé les maisons. Ça avale juste la route autour et les jardins. Mais c'est pour nous dire qu'il faut viser le paradis. C'est pas une réalité à prendre à la légère. Et la terre est vraiment difficile pour le chrétien. Et il tient grâce à Dieu. Il tient. Et d'où la nécessité d'une vraie communion avec Dieu pour tenir. D'où la nécessité de ressembler à Dieu. Parce que tu ne peux pas tenir devant toutes ces injustices tout en restant humble. Donc tu as besoin de ressembler au Seigneur pour faire face à tout ce qu'on voit. Donc on a besoin d'être plus proche de lui. Donc c'est cela que Dieu nous aide à nous rappeler la logique du paradis chaque jour. Afin que cela nous maintienne dans la pureté, dans la droiture et que la terre n'ait pas de prise sur nous. Et quand on perd des choses, on dit, mais gloire à Dieu. On perd une voiture, gloire à Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi. Voilà, c'est tout. Dieu sait pourquoi. Notre visée, notre objectif, c'est le paradis. Donc c'est ça que nous devons considérer. Ça nous permettra de tenir. Et beaucoup de gens ont fait des exploits. Mais à un moment donné, Dieu n'a pas suivi. Parce qu'il voulait que Dieu les suive. Mais à un moment donné, Dieu va dire, non, ce n'est pas à toi de m'entraîner, c'est à moi de t'entraîner. À un moment, Dieu va te dire, non. Moi, j'ai prévu le ciel. Toi, tu veux me laisser sur terre. Donc, ce sera la séparation qui va s'installer petit à petit. À un moment, tu n'as plus Dieu. Et les gens ne comprennent plus. Tu n'as aucun discernement, tu ne vois plus les choses comme il faut, parce que Dieu n'est plus avec toi. Comme on racontait récemment, comment un pasteur peut être là à prêcher, j'ai 15 voitures, 2 Hummer, 2 Nissan Patrol, 2 ceci, et tout ça j'ai donné à des gens parce que je suis riche. Et les gens qui se disent chrétiens sont là à acclamer et à être contents. Ça veut dire qu'ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. La terre les a tout pris. Donc, ils n'ont plus rien dans la tête. Les choses sont évidentes. Ils n'ont plus rien. Ils écoutent des choses opposées clairement à leur Seigneur, mais ils continuent à penser que c'est leur Seigneur. Donc, c'est vraiment le contraire. Donc, c'est ce qui arrive quand on commence à s'accrocher à la terre. C'est ce qui arrive. Donc, on veut à tout prix réussir cette terre. On veut à tout prix des résultats sur terre. Et donc, quand un homme comme ça va venir, il va raconter des histoires, il va montrer qu'il réussit, et nous considérons qu'il est de Dieu parce qu'il réussit. Il y a des foules qui le suivent. Non, ce n'est pas la terre qui doit compter, c'est le ciel. On voit encore avec Jean-Baptiste. Il était dans le désert, il prêchait. La foule est venue. Jean-Baptiste n'a pas sauté de joie. Il a dit, mais vous cherchez quoi, race de vipères? Repentez-vous! Il ne s'est pas félicité en disant ça y est, maintenant c'est mon ministère qui va briller. Non, il a été plus sévère encore. Plus sévère. Parce que au ciel, il n'y a que toi qui entres. Tu n'entres pas avec l'orgueil, tu n'entres pas avec ton succès, c'est toi seulement qui entres. Voilà, c'est tout. Et les vrais serviteurs vont préparer les autres à y entrer, donc à être dépouillés des autres choses. C'est ça le paradis. Et nous avons lu le texte sur la Nouvelle Jérusalem. Personnellement, je pense que tout le monde devrait aimer être dans cet endroit-là, se reposer réellement de ses œuvres. Quand tu arrives là, c'est fini. Donc, c'est quand quelqu'un a eu son bac, il regarde le chemin et dit, bon, j'ai accompli quelque chose pendant ces 12 années passées. Et quand quelqu'un a finalement son diplôme de fin d'études, il dit, je veux me reposer un peu. Voilà, donc c'est ça. Et le grand repos, ça sera au paradis. Nous prenons un deuxième mot, le mot péché. Et le mot péché, en résumé, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu, inscrite dans sa parole. C'est désobéir à Dieu. Ce n'est pas obéir à ses commandements. Mais il y a un terme qui le définit beaucoup plus totalement, c'est rater la cible. Donc tu rates l'objectif. Le péché, c'est rater la cible. Parce que quand on prend le péché comme ne pas obéir aux commandements de Dieu, beaucoup vont en apparence s'en sortir. Et on connaît un monsieur qui pensait s'en sortir. Dans Luc 18, il est écrit au verset 9, non, au verset 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc, ce jeune homme pensait qu'il était qualifié, donc il venait chercher la confirmation auprès de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son sens. Il sait ce que pense ce jeune homme-là. Il dit, « Mais il faut obéir à la loi, au commandement. » Il dit, mais le jeune homme dit, mais je suis champion. Depuis ma jeunesse, j'obéis à tout. J'obéis à tout. Et il était dans la définition du péché lié à la liste des commandements de Dieu. Il y a une liste et tu es en train de voir que dans cette liste, tu n'es pas pris. Puisque tu n'es pas pris, donc c'est bon. Mais non, ce n'est pas seulement ça, la définition du péché. La définition du péché, c'est rater l'objectif de Dieu. Quel est l'objectif de Dieu? C'est que l'homme soit à son image, vive de lui et avec lui. C'est ça l'objectif de Dieu. Et ce jeune homme n'avait plus la confiance qu'il devait avoir en Dieu, puisqu'il s'est écrit « Le juste vivra par la foi ». On lui dit « Vends tous tes biens et suis-moi ». Mais il a perdu sa foi en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu dois croire qu'il est tout puissant pour te donner tout ce dont tu as besoin. Mais on voit que ce jeune homme était plus attaché à la richesse qu'à Dieu lui-même. Pourtant, il n'avait pas volé, il n'avait pas menti, mais il tombait sous le coup du commandement sans s'en rendre compte. Tu aimeras le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, il tombait sous le coup de ce commandement-là, mais il ne s'en rendait pas compte. Lui, il croyait que le fait qu'il ne vole pas, qu'il ne mente pas, au fait, tous les commandements qui expriment le mal facilement, donc mentir, voler, taper, voilà, tuer, ça montre le mal, parce qu'on fait du mal à quelqu'un d'autre. Maintenant, le commandement qui ne montre pas le mal clairement, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, eh bien, les gens ont tendance à le négliger et ils pensent être corrects parce qu'ils ne font pas du mal à quelqu'un, clairement. Mais non, mais c'est écrit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et donc quand Jésus lui dit, que, est-ce que tu as obéi à tous les commandements, Jésus pense aussi à celui-là. Mais lui, il se concentre sur tous les commandements où le mal est visible. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul finira dans 1 Corinthiens 13 par nous dire que c'est l'amour, c'est plus grand que tout. Voilà. Ce que Dieu attend de nous, qu'on soit comme dans, c'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Et tout cela est lié à l'amour qu'on peut avoir, qu'on va avoir pour lui et pour les autres. Mais tout ça, pour entrer dans ce niveau-là, il faut comprendre que le péché, c'est rater la cible, c'est rater l'objectif de Dieu. Dernièrement, j'ai discuté avec un bien-aimé concernant des problèmes qu'il avait. Je lui ai dit, tu sais, mon principe de solution des problèmes, c'est, je me pose toujours des questions, la question suivante. Il y a deux chemins qui me sont proposés. Quel est le chemin qui va apporter la construction? C'est comme ça que je résous les problèmes. Je ne résous pas en cherchant à enlever forcément l'obstacle. Mais quel est le chemin qui apporte la construction? Et beaucoup de personnes sont dans une logique à dire, on m'a fait ceci, c'est logique que je fasse cela, comme une sorte de vengeance. Mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils insistent sur le mal de l'autre. Mais nous, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui plaira à Dieu? Que je récupère cet argent ou je laisse? Mais la personne qui est dans la logique de la loi, de la liste des commandements, va se dire, mais non, je suis dans mon droit, c'est mon argent, je dois faire ceci. Mais un vrai chrétien va dire, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse par rapport à ça? La personne qui est dans la logique de la loi va dire, mais non, c'était la maison de mon père. On l'a vendue, eh bien, je dois prendre ma part. Mais le chrétien, devant des troubles familiaux, l'esprit peut lui dire, tu ne prends pas. Il est attentif à ça, il dit, bon. Les gens vont dire, mais tu t'es fait avoir. Mais non, mais je me suis fait avoir comment? J'ai perdu 15 000 euros, mais le Seigneur peut me donner 150 000. Donc le chrétien réfléchit par rapport à son... C'est ça l'attachement à son Dieu. C'est ça être dans l'objectif. Le chrétien ne va pas dire, c'est mon droit. Je fais des heures supplémentaires. Je vais aller au tribunal pour réclamer ça. Le chrétien va dire, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Et si le Seigneur dit laisse, il laisse. Il veut plaire à son Dieu. Il ne veut pas forcément revendiquer son droit, entre guillemets, mais il veut aimer son Dieu, aimer son prochain et plaire à son Dieu. Être dans l'objectif de Dieu, l'objectif de Dieu, être de sa nature. Lui qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. C'est ça la nature de Dieu. Le chemin que tu prends, est-ce que ça construit ou ça détruit? Les paroles que tu sors, ça construit ou ça détruit? Même si tu as raison, tu peux avoir raison, mais quand tu veux sortir ces paroles-là, c'est pour avoir raison ou pour construire? C'est ça comme ça que réfléchit un enfant de Dieu. C'est ça. Être dans l'objectif. Et beaucoup négligent cette définition du péché. Rater l'objectif. L'objectif d'être comme Dieu. L'objectif de plaire à Dieu, l'objectif d'avoir la foi, l'objectif d'être dans l'amour, la nature de Dieu. L'objectif que Dieu, à Dieu seul, soit la gloire. C'est ça aussi l'objectif du chrétien, que la gloire revienne à Dieu seul. Richard Rembrandt disait, quand les gens me critiquent, ça fait mal, mais je me dis que cela est juste, parce que Dieu seul doit être glorifié. Voilà. Il dit, voilà, quand les gens le critiquent, alors qu'il sait que ce qu'il fait est bon, il dit, ça fait mal, mais cela est juste, afin que, dans les bonnes œuvres qu'il accomplit, que Dieu seul soit glorifié et pas l'homme. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont compris quelle est l'attitude, quel est l'objectif de Dieu. Il n'est pas là à dire, ben, il se trompe, il me juge mal. Non, il dit, bon, au moins ce qu'ils font prouve qu'il y a Dieu et il y a moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, tout est fait pour que Dieu soit glorifié. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est être dans l'amour. L'objectif, c'est être dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas une histoire de droit. C'est une histoire de volonté de Dieu. Et beaucoup sont dans cette logique-là de droit et pensent être corrects avec Dieu. Mais c'est avec les années, quand leur chute sera très visible, c'est là qu'on se rend compte qu'ils étaient déjà sortis de l'objectif de Dieu, même s'ils ne commettaient pas des péchés criants. Mais ils étaient déjà sortis de l'objectif de Dieu et cela va se manifester plus tard gravement. Donc c'est cela que sous ce terme-là, nous devons retenir ça, rater la cible. C'est ça le péché. Donc il faut rester dans l'objectif de Dieu. Il y a un autre mot qu'on a déjà traité pendant la fête, c'était Pentecôte, ça a été déjà expliqué. Pentecôte, ça vient d'un mot qui veut dire 50e, et c'était la fête de la moisson, donc après cette semaine de Pâques, c'était le 50e jour, la fête de la moisson, mais le Seigneur s'est manifesté puissamment par son esprit ce jour-là, ouvrant la porte à la moisson mondiale. Et c'est devenu, pour les chrétiens, un vocabulaire qui fait référence à la puissance du Saint-Esprit. Là, on a vécu une sorte de Pentecôte. Voilà, donc c'est lié à la puissance du Saint-Esprit, peut-être qu'on a expérimenté. Et malheureusement, c'est devenu pour beaucoup de chrétiens comme un deuxième Jésus. La Pentecôte, ce n'est pas un deuxième Jésus. Jésus reste le chemin, la vérité et la vie. Et quand Jésus a fait descendre son esprit avec puissance ce jour-là, c'était une fois pour toute l'Église qui allait venir. Et même à cette époque-là, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à un moment donné, ils furent remplis du Saint-Esprit et les murs ont tremblé. Donc le Seigneur a ouvert la porte de son action, mais ce n'est pas ce jour-là n'emprisonne pas le Seigneur. Donc le Seigneur est encore vivant pour agir maintenant, pour agir puissamment. Tout n'est pas emprisonné dans le mot Pentecôte. Donc le Seigneur est tout puissant, c'est lui qui agit et nous devons espérer en lui qu'à notre époque, il manifestera encore sa gloire. Et la Pentecôte, c'était la porte qui s'est ouverte. Et cette porte est toujours ouverte pour les enfants de Dieu. Mais le Seigneur agit selon sa volonté. Nous cherchons sa face et nous savons qu'en son temps, il va encore déployer sa grande puissance par son esprit qui va transformer. Et donc nous ne devons pas nous bloquer à ce mot-là, Pentecôte, pour faire de ça comme une sorte de deuxième salut. Voilà. Donc le Seigneur reste le salut, il reste la source, il reste le puissant de Jacob, la terreur d'Isaac, c'est lui qui amène la puissance. Et donc nous devons lui faire confiance qu'il peut encore agir aujourd'hui, parce que c'est devenu même une dénomination, les pentecôtistes. Donc tout ça, c'est des égarements d'humains. Donc, c'est l'Église sur terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, cette Église-là qui est composé de chrétiens nés de nouveau, qui travaillent. Et le Seigneur, à une époque, a fait descendre sa puissance, a ouvert la porte. Et cette porte est toujours ouverte. À nous de chercher sa face, d'entrer dans sa volonté. Il continuera toujours à agir. On ne doit pas le bloquer à un système, à une façon de faire. Et puis, il y a le mot prophète. Donc, prophète, dans l'Ancien Testament, c'était des personnes à qui Dieu parlait afin de s'adresser aux autres. Donc, c'était une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les autres dans le sens de haut en bas. C'est-à-dire, Dieu parle, le prophète reçoit et il exprime cela aux autres. Ce qui fait que le prophète lui-même devait être brisé, travaillé par Dieu pour être réceptif à ce message. C'est pourquoi on appelait ces gens-là des hommes de Dieu, parce qu'ils étaient mis à part. Ils avaient une vie qui était très attachée à Dieu pour pouvoir recevoir le message du Seigneur pour les autres. Le prophète, c'est un peu le parallèle dans l'autre sens du sacrificateur. Le sacrificateur reçoit des humains, les doléances, l'adoration, pour envoyer vers Dieu. Et le prophète, il recevait et il était envoyé par Dieu pour amener son peuple dans une direction à travers les révélations que Dieu lui confiait. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que tout chrétien est prophète, entre guillemets, dans le sens où chacun peut avoir une parole qui vient de Dieu pour l'un ou pour l'autre? Dieu peut parler en fait à travers chaque personne.
Voilà, donc on peut dire que Dieu peut parler à travers chaque personne. Voilà. Mais on ne peut pas dire vraiment, parce que dans Éphésiens 4, on dit quand même que Dieu a établi, donc on va y arriver, donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Donc tout le monde n'a pas ce ministère-là. Donc, mais Dieu peut utiliser tout chrétien pour parler. Voilà. Parce qu'il est écrit dans la parole, Dieu parle, qui ne prophétiserait? Donc Dieu peut utiliser, il a utilisé même un âne. Donc il peut utiliser tout chrétien parce que tout chrétien a l'Esprit de Dieu. Et tout chrétien ayant l'Esprit de Dieu, il est utilisable par Dieu pour toutes sortes de choses. Donc c'est cela. Mais toutefois, donc, là, on parlait par rapport à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, donc, on trouve deux réalités. Ce qu'on appelle le ministère prophétique, c'est-à-dire que cela nous vient d'Éphésiens 4, 11. Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes et les évangélistes. Donc, des gens qui vont insister donc, sur un message pour entraîner le peuple de Dieu, le ramener vers Dieu. Voilà, donc, ils vont insister sur le fait de ramener toujours le peuple de Dieu vers Dieu quand ce peuple se détourne. C'est ce que faisait à peu près le serviteur de l'Ancien Testament. Parce qu'il faut dire dans tout ça, le prophète de l'Ancien Testament, avant Moïse, il était comme Dieu lui-même pratiquement, puisque c'est lui qui parlait au nom de Dieu. Mais après Moïse, Il n'y a que deux prophètes principaux de tout le temps. C'est Moïse et Jésus. Donc après Moïse, tout prophète qui venait dépendait de ce que Moïse avait dit. Et après Jésus, tout celui qui vient dépend de ce que Jésus a dit. Donc la parole n'a été donnée qu'à deux personnes, à Moïse et à Jésus. Et donc tout le reste parle de ce que Moïse a dit et de ce que Jésus a dit. Donc, c'est pas, ils n'ont pas, on n'a pas la même dimension que ces deux-là. Donc, c'est eux, ils ont reçu la parole qui n'était pas avant. Et les autres ramènent les gens aux paroles, voilà, reçues par ces deux-là. C'est pourquoi Jean dit, la loi a été donnée à Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Voilà, donc nous, si quelqu'un est prophète aujourd'hui, dans son travail, il va ramener le peuple de Dieu à la parole qui a été donnée avant et il va ramener le peuple de Dieu à Dieu dans le sens de s'attacher à lui, revenez à lui, concentrons-nous sur lui. Voilà, c'est ça que, le travail qu'il va faire dans sa vie régulièrement. Et il y a aussi ce qu'on appelle des dons de prophétie, le don de prophétie qui consiste à exhorter, à fortifier, en donnant parfois des paroles de connaissance et des paroles concernant les choses à venir. Donc, ce qui fait qu'un prophète va souvent avoir ce don de prophétie, il va souvent donner des paroles, il lui arriver de dire des choses qui vont se produire dans l'avenir. Et il va lui arriver aussi de donner des paroles de connaissance, de dire des choses qui existent, mais qui ne sont pas à la connaissance de tous, mais lui, il va dévoiler ça. Donc, c'est ça le don qu'on retrouve souvent dans le don de prophétie. Donc, il va dévoiler le cœur. Et c'est ce qui fait que les gens, parfois, ils s'énervent, ils pensent qu'on a parlé d'eux, alors que les gens ne sont pas au courant. Ceux qui ont parlé, ils ne sont pas au courant, mais c'est le Seigneur qui dévoile le cœur. Et c'est ça, le don de prophétie. Donc, c'est ça les réalités qu'on retrouve autour du mot prophète. Et nous finissons avec le mot rachat, rédemption. Donc, rédemption veut dire racheter. C'est le rachat. Autrefois, il y avait une réalité, il y avait l'esclavage. Oui.
Oui, excuse-moi, je vais juste revenir un peu en arrière. C'est par rapport au don de prophétie. Est-ce que c'est pour ça donc, qu'on appelait à l'époque, enfin dans l'Ancien Testament, le prophète, on l'appelait aussi le voyant?
Voilà.
Donc, le don, entre guillemets, là, de voyance, ça a été détourné par la suite, mais à la base, c'est ce don-là.
Oui, oui, donc c'est le don de dévoiler les cœurs, de dévoiler qu'est-ce qui est caché. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui parole de connaissance. C'est-à-dire, on te donne la connaissance de ce qui n'est pas dévoilé, de ce qui n'est pas montré, quoi. Voilà. Parce qu'on va parler aussi du mot révélation, ça c'est encore autre chose.
Donc quand Jésus parle aussi des faux prophètes, en fait, c'est aussi cela. Ce sont aussi les faux, les voyants, ou bien c'est les faux prophètes qui étaient avant?
Ah non, là, il parle des faux prophètes donc, dans le sens biblique, pas dans le sens de satanique, des gens qui font la magie. Les faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui viennent avec la parole de Dieu, mais frelatés, donc altérés. Voilà, c'est ça les faux prophètes. Mais ces gens-là, ces faux prophètes, ils utilisent des faux dons de prophétie pour épater le peuple et les pousser à entendre la fausse parole. Parce que ça va ensemble. Il y a la parole et il y a les dons. Et les dons sont utilisés pour donner la fausse parole. On a l'exemple dans Deutéronome 13. Donc on va lire alors Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà ce que le Seigneur dit. Attention, ils peuvent faire des prophéties qui s'accomplissent. Mais après, ils vous disent, mais allons vers d'autres dieux, des faux dieux. Ah ben alors, n'écoutez pas. ne prenez pas au sérieux. Et beaucoup de gens ont souvent utilisé l'argument, mais comment ce qu'il a dit est arrivé? Beaucoup ont utilisé l'argument, mais comment il a fait les miracles? Mais oui, Dieu nous dit, c'est lui, Dieu qui a laissé faire, afin de voir si on est attaché à lui ou on est attaché à ce qui impressionne. Voilà. Ce n'est pas toujours, parce qu'ils peuvent utiliser les pouvoirs sataniques, mais ce n'est pas toujours ça aussi. Ça peut être autre chose. Dans tous les cas, c'est Dieu qui laisse faire parce qu'il veut voir si on a bien compris que le vrai prophète donnera aussi la vraie parole. Comme je vous ai cité l'exemple, c'est vrai qu'il y a un autre passage aussi qui dit aussi que le faux prophète donnera des fausses prophéties, mais ce passage nous montre qu'il peut donner quelque chose qui s'accomplisse. Voilà. Donc ne restons pas fermés sur Deutéronome 18 qui nous dit que si quelqu'un est faux prophète, il donnera une fausse prophétie. Donc si quelqu'un donne plutôt des fausses prophéties, c'est des faux prophètes. Mais il y a Deutéronome 13 qui nous dit que le faux prophète peut donner aussi des choses qui se réalisent. Donc ce n'est pas une excuse pour les suivre dans leur égarement en disant mais comment ils prophétisent des choses qui se réalisent? Ah non. Donc si quelqu'un... C'est pourquoi les gens sont parfois en colère, parce qu'ils entrent dans le bureau, dans mon bureau, peut-être, ou bien ils me rencontrent en chemin, avec une grosse prophétie. Mais après, je les calme avec un verset biblique. Mais donc, parce que toute prophétie doit concorder avec la parole de Dieu. Donc, si tu nous amènes une prophétie et que ça va détruire, même peut-être c'est vrai, nous, on va gérer ça à travers la parole. On ne dit pas que ce que tu dis est faux, mais la gestion finale, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Donc, si quelqu'un met une prophétie, on ne dit pas que c'est faux, mais on doit gérer ça à travers la parole. Et les gens sont surpris que tu prennes sa balle à terre alors que lui, il a vu le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui a donné les commandements là que je suis en train de lire. Donc, il faut tout gérer par rapport à la parole. Maintenant, la personne se dit, mais attends, moi, j'ai vu le soleil. Je lui explique. Lui, il me ressort la Bible. Mais oui, mais ce n'est pas ma faute. Donc, le Seigneur a dit, même si quoi qu'on me dise, je dois filtrer par rapport à la parole. Et là, j'ai peur que si Hillary devient présidente, là, ça va chauffer avec la fausse prophétie de Bernard Blessing. Donc, le jour où Hillary devient présidente, Bernard Blessing va circuler le monde entier, remplir les stades. Donc, mais bon, après, il va dire qu'il a 15 hameurs et peut-être 2 avions. Donc, ça sera la faute à qui? La parole dit clairement, si quelqu'un prophétise des choses, mais dans sa façon de faire, il vous amène loin de Dieu, considérez que c'est un faux prophète. Ce n'est pas moi, on vient de lire. Il prophétise, d'un côté, des choses qui se réalisent, mais de l'autre côté, il nous amène loin de Dieu en nous parlant des voitures, de la mer. Donc, c'est clair qu'il n'est pas de Dieu. C'est tout. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, nous devons rester concentrés sur la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Je répète, il n'y a que 2 personnes qui ont reçu la parole, Moïse et Jésus. Tous les restes, nous sommes des suiveurs. Donc nous suivons les deux. Donc quelqu'un ne peut pas vous dire, là on va en parler de quand on va parler du thème révélation, quelqu'un ne peut pas vous dire, non, moi j'amène quelque chose de nouveau. Ah non, 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 non. Si quelqu'un vous dit j'amène quelque chose de nouveau, c'est un faux prophète. Il n'y a que 2, Moïse et Jésus. Et nous tous, nous suivons. Vous vous souvenez de 1 roi 13, non? Le vieux prophète et le jeune prophète. Mais Dieu a parlé au jeune prophète. Mais le vieux prophète est venu dire, mais moi j'ai vu un ange. Le jeune prophète a été impressionné parce que l'autre a vu un ange. Entre la voix de Dieu et un ange. Parce que la voix de Dieu, tu n'as vu personne, t'a entendu. Mais lui dit, moi j'ai vu un ange. Il m'a dit ceci. Il a été impressionné. C'est pourquoi, bien aimé, même si vous voyez quelqu'un sauter un building, vous avez la tour Montparnasse, il saute ça, il prophétise, vous le calmez, vous lui donnez une chaise, assis-toi, parle maintenant. Voilà, donc, parce que tout doit être géré par rapport à la parole de Dieu. Moi, il y a des gens qui sont entrés dans le bureau pour m'imposer que j'accepte qu'un tel, c'est son mari. Dès ce jour-là, on s'est habillé gris-gris. Ah, moi, je dis, mais d'accord, vous vous êtes habillé gris-gris, mais moi, ce que j'ai lu dans la parole, s'il veut de toi, il doit se manifester. Donc, en fait, on veut m'imposer pour que moi, j'aille m'imposer sur le frère. Moi, je dis, ah, mais non. Donc, comme je... Oh, mais toi, tu es incrédule. Moi, je dis, ah, je suis incrédule, mais moi, je crois à la parole. Maintenant, tu es incrédule, je t'explique les choses. Donc, moi, je dis, mais moi, mon chef m'a dit de suivre la Bible. Toi, tu n'es pas mon chef. Voilà. Mon chef m'a dit, c'est ça. Mais moi, j'avais dit, si c'est de Dieu, qu'on s'habille de la même couleur. Et c'était la même couleur. Ah, mais bien aimé, vous savez, il y a combien de couleurs dans la vie? Peut-être 10 seulement. Donc, forcément, parmi nous, il y aura tout. Un jour, on va se rencontrer en blanc-blanc avec quelqu'un ici. Voilà. Donc, il n'y a pas de millions de couleurs. Donc, un jour. Mais on était en gris. Moi, je dis, mais bon, malheureusement. Oui, mais la lumière que j'avais vue, c'était quoi? Moi, je dis, mais on va prier que Dieu nous dise si c'était quoi. Non, toi, tu es incrédule. Moi, je dis, bon, non, moi, je crois à la parole. Donc, c'est ça, bien-aimé. Donc, la personne va sauter sur un avion, on va dire, prends la chaise, parle maintenant. Et nous, on ouvre la Bible, on attend. Après ça, voilà, incrédule. Non, ce n'est pas incrédulité, c'est qu'il y a un chef sur la terre, dans l'univers, c'est l'Éternel des armées qui a envoyé Moïse et Jésus. Et eux, ils ont scellé les choses. Nous tous, on est des suiveurs. Donc, maintenant, quand quelqu'un amène quelque chose, on prend Moïse et Jésus, on vérifie si ce qu'il dit correspond à ce que Moïse et Jésus ont dit. Sinon, on ne suit pas. Et maintenant, si on n'arrive pas à très bien comprendre, on dit, on va prier que Dieu nous éclaire. C'est ce qu'on dit. Mais on ne peut pas prendre position comme ça. Donc, il faut que Dieu nous éclaire et que Dieu finisse par nous montrer que ça correspond à sa parole. C'est important. Sinon, on peut se faire avoir parce qu'on est impressionné. Comme le jeune prophète était impressionné parce qu'on lui a dit, c'est un ange. Il y a même un qui... Donc, c'est-à-dire, tu sors du rendez-vous, tu es troublé parce que tu te dis, vraiment, tu es quand même un peu têtu, parce que la personne vient t'expliquer qu'elle a vu Jésus, Jésus lui a dit ceci, mais tu sens que la personne veut qu'on la laisse prêcher, mais bon, bon frère, vraiment, que Dieu soit béni, mais... Il a attendu jusqu'au calende grec, la personne a quitté l'église. Parce qu'il pensait que parce qu'il a vu Jésus, donc on doit le laisser prêcher. Ah! Donc, il y a des enfants de 4 ans qui ont vu peut-être le Seigneur, donc on va les laisser aussi prêcher. Non, non. Donc, on suit les choses en fonction du Saint-Esprit. On suit les choses. Et le frère était convaincu que ce jour-là, il m'a convaincu. Mais bon, il a fini par quitter l'église, voyant qu'il ne m'avait pas convaincu. Mais moi-même, j'étais gêné de voir, mais comment? Ça, c'est peut-être la jalousie. Le monsieur, il a vu vraiment le Seigneur clairement comme ça, tout ça. Mais non, s'il a vu le Seigneur, il doit ressembler au Seigneur. Voilà. On apprend que c'est un pasteur, il s'isole pendant 3 jours de jeûne par semaine. Maintenant, quand tu l'entends parler, il parle comme Michael Jackson. Mais toi, 3 jours par semaine, tu t'isoles pour prier avec le Seigneur. Il dit que lui, il parle avec le Seigneur face à face. Maintenant, quand on l'entend parler, on a l'impression d'entendre Bill Clinton. Avec qui il passe les 3 jours là? Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est vrai qu'on est impressionné quand on entend que quelqu'un jeûne chaque semaine 3 jours. Il quitte sa famille, il va dans un endroit isolé 3 jours. On dit, ah, quelle consécration. C'est beau ça. Mais après, quand on l'entend parler, il parle comme Bill Clinton. On dit, ah, on a du mal à croire que c'est avec le Seigneur qui passe du temps. Parce que si c'était avec lui qui passait du temps, on l'entendrait louer Dieu. On l'entendrait être simple comme le Seigneur. Voilà, donc il serait comme le Seigneur. C'est pas, on a du mal à croire. Donc c'est ça, donc tout est lié à la parole de Dieu. Prophète, prophétie, on aime ça, on est d'accord. Mais nous vérifions tout par rapport à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on reconnaît les vrais prophètes concernant, conformément à Deutéronome 13. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bienveillance et ton amour. Nous prions que tu nous aides à rester dans ta parole, même si nous pouvons être impressionnés par des prophéties concernant des présidences de république, concernant l'avenir, même si on peut être impressionné par une apparence de sainteté de certaines personnes, même si on peut être impressionné par des coïncidences liées à ce que disent d'autres des gens, Seigneur, mais que nous restions vigilants par rapport à ce qui va être dit dans la suite. Si ce qui va être dit dans la suite ne correspond pas à ta parole, que nous puissions oublier tout ce que nous avons entendu et nous concentrer sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider aussi à ne pas rater l'objectif, à ne pas être des chrétiens religieux qui prennent la liste des lois, des commandements, et qui se contentent de ça, et qui restent parfois égoïstes, mais puisque l'égoïsme n'est pas comme un coup de poing, mais ils ne s'en rendent pas compte, puisque la jalousie n'est pas visible, ils ne s'en rendent pas compte, Seigneur. Nous voulons vraiment être dans ton objectif, qui est de chercher toujours ta gloire, qui est de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à rester dans l'objectif. Et nous prions aussi que tu nous aides à rester concentrés sur le paradis, à comprendre que nous sommes de passage, nous avons une mission sur terre. Nous nous attendons à toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.